Savoie, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakis dans la présentation de cette édition du jeudi 29 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Niger, 18 civils tués dans une nouvelle attaque près de la frontière malienne. Au Tchad, plusieurs centaines de manifestants en N'Djamena contre la junte pour exiger le rétablissement de la démocratie et de la justice.
Ces enfants ont été tués. Il y a l'homme, je vous parle, il n'y a aucune indemnisation. Les familles sont abandonnées à elles-mêmes.
En Tunisie, le président Saïd use de ses nouveaux pouvoirs pour s'attaquer à la corruption. Des inondations en Chine et en Afghanistan font plus d'une centaine de morts dans les deux pays. Dans 10 minutes, vous suivrez également notre journal des JO de Tokyo, mais d'abord, les nouvelles du monde. 18 personnes ont été tuées mercredi au Niger dans une attaque dans la zone de Banibangou dans l'ouest, près de la frontière avec le Mali. Dimanche, des hommes armés à moto y ont tué 14 civils. Cela porte à 32 le nombre de civils tués dans la région en moins d'une semaine. Les précisions avec Michel Joseph.
L'attaque a été menée mercredi matin par des hommes armés à moto et 18 personnes ont été tuées, 4 ont été blessées dans le village de Deyekoukou, à 20 km de la ville de Banibangou, a précisé l'élu local sous couvert d'anonymat. Il n'a pas donné de précision sur les circonstances de l'attaque qui porte à 32 le nombre de civils tués dans la région en moins d'une semaine. Dimanche, 14 personnes ont été tuées dans le village de Ouillé, dans la même commune de Banibangou, non loin de la frontière avec le Mali. Le ministère nigérien de l'Intérieur avait assuré après l'attaque de Ouillé que des mesures sécuritaires et sanitaires seront renforcées dans la zone et qu'une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs. Banibangou est une commune de la région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes. À la mi-mars, des attaques de véhicules qui rentraient d'un grand marché hebdomadaire et contre un village de cette commune avaient fait au moins 66 morts. Un contingent de 1200 soldats de l'armée tchadienne a été déployé dans la zone dans le cadre de la force du G5 Sahel.
Au Mali, le général Moussa Diawara, ex-chef des services de renseignement malien, a été arrêté jeudi dans l'enquête sur la disparition du journaliste d'investigation Birama Touré en 2016. À la tête de la Direction générale de la sécurité d'État DGCE, pendant 7 ans sous Ibrahim Boubacar Keïta, le général Diawara a été inculpé de complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture, etc. Selon une source judiciaire, Karim Keïta, fils de l'ex-président Ibeka, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Au Tchad, plusieurs centaines de personnes ont manifesté jeudi en N'Djamena contre la junte au pouvoir. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Mastra ont appelé à manifester contre la confiscation du pouvoir du Conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno et exiger l'organisation d'une conférence nationale souveraine, inclusive et globale. La manifestation a été autorisée sur une avenue dans le centre de la capitale tchadienne. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées. Nous y reviendrons en page magazine. En Ouganda, l'opposition et des défenseurs des droits humains dénoncent la décision du gouvernement d'installer des dispositifs de suivi numérique sur les véhicules pour lutter contre la criminalité. Selon eux, les autorités vont s'en servir pour surveiller les opposants, activistes et les critiques. Le point avec Nanit Talani.
Le plan de suivi numérique de véhicules a été signé la semaine dernière avec une société russe. Les opposants affirment qu'une telle surveillance de masse est une violation de la vie privée. Dans tous les régimes répressifs, ils utilisent la sécurité nationale comme bouc émissaire pour surveiller les gens et piétiner leurs droits. Ils veulent utiliser cette collecte de données GPS pour suivre les politiciens, les militants et les journalistes de l'opposition, a déclaré Dorothy Mukasa, qui dirige un organisme de surveillance des communications numériques basé à Kampala. Patrick Oboy Amouriat, président du FCD, le deuxième plus grand parti politique, estime qu'il s'agit d'un mécanisme pour contrôler la vie des Ougandais. Sollicitée par Reuters, Linda Nabusayi, porte-parole du président, a décliné tout commentaire. Mais le président Yoweri Museveni lui-même a déclaré que son gouvernement souhaite s'appuyer sur des outils de haute technologie pour combattre la criminalité.
En Tunisie, le président Kais Saied, qui vient de réaliser un coup de force, a lancé une offensive anticorruption en réclamant des comptes à 460 hommes d'affaires accusés de détournement de fonds sous l'ère Ben Ali. Le point avec Rosine Mounezero.
Le président Kais Saied s'en est pris à ceux qui pillent l'argent public. Ils sont 460 à devoir 13,5 milliards de dinars, soit 4 milliards d'euros à l'État, a-t-il rappelé, en citant un ancien rapport d'une commission d'enquête sur la corruption et les malversations sous l'ancien régime du président Zine El Abidine Ben Ali. Quelques heures auparavant, le parquet, placé sous son autorité dans le cadre des nouvelles mesures d'urgence, a publiquement annoncé l'ouverture d'une enquête sur plusieurs partis soupçonnés d'avoir bénéficié de financements étrangers pendant la campagne électorale en 2019. Le président tunisien a suspendu dimanche le Parlement pour un mois et s'est emparé de l'ensemble du pouvoir exécutif. Dans l'attente d'un nouveau chef de gouvernement, plusieurs organisations de la société civile réclament à M. Saïd une feuille de route avec un calendrier détaillé. Mercredi, elles ont mis en garde contre tout prolongement illégitime de la suspension du Parlement au-delà des 30 jours prévus par la Constitution.
La directrice de l'Agence américaine d'aide internationale USAID, Samantha Power, se rendra en Éthiopie la semaine prochaine. Elle rencontrera des responsables éthiopiens à Addis Abeba pour réclamer un accès humanitaire sans entrave en vue de prévenir la famine au Tigré et répondre aux besoins urgents dans d'autres régions de l'Éthiopie affectées par le conflit, a indiqué l'USAID dans un communiqué. La tournée de l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, qui débutera samedi, l'amènera également au Soudan, a ajouté l'USAID. Les élections législatives ont commencé jeudi dans l'un des 5 États de la Somalie avec plusieurs jours de retard sur le calendrier annoncé. Les autres États n'ont pas encore commencé à voter dans le cadre de ce processus électoral de plusieurs mois qui était censé débuter dimanche. Les 5 États doivent, lors de cette première phase, désigner les 54 représentants élus à la Chambre haute du Parlement fédéral, le Sénat. Mais dimanche, aucun n'était prêt à voter.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine et l'Afghanistan ont été frappés par des inondations meurtrières. Pékin fait état d'un nouveau bilan de 99 morts lors des inondations de la semaine dernière, alors que Kaboul parle d'une quarantaine de personnes tuées et environ 150 qui sont portées disparues. Mohamedou Oumfa fait le point.
En Afghanistan, selon les autorités, environ 40 personnes ont été tuées la nuit dernière dans des crues soudaines dans le district de Kandesh, à environ 200 km au nord-est de Kaboul. Environ 150 personnes sont toujours portées disparues et près de 80 maisons ont été détruites. En Chine, des pluies torrentielles ont frappé la ville de Zhengzhou le 20 juillet. En 3 jours, il est presque tombé l'équivalent d'une année de précipitations du jamais vu en 6 décennies. Une rame de métro a été engloutie, faisant au moins 14 morts parmi les passagers pris au piège à l'heure de pointe. Le bilan est passé à 99 morts après la découverte de 26 corps supplémentaires dans la province du Henan. Plusieurs reporters étrangers ont été pris à partie par certains habitants. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a mis ses comportements sur le compte de ce qu'il appelle l'indignation du peuple chinois envers les fausses informations diffusées par certains médias occidentaux.
En Syrie, 23 personnes, dont 8 civils, ont été tuées jeudi à Deraa dans les combats les plus violents et ont secoué cette province du sud du pays depuis sa reconquête par le régime il y a 3 ans, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien ne peuvent durer indéfiniment, a prévenu jeudi le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, au lendemain d'un discours très ferme du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Environ 400 sans-abri, dont des familles avec enfants et des mineurs non accompagnés, ont planté des tentes jeudi au cœur de Paris, sur la place des Vosges. afin de demander à l'État des solutions d'hébergement dignes et pérennes. Ces sans-abri sont accompagnés par le collectif Réquisition qui regroupe plusieurs associations d'aide aux migrants ou aux sans-abri. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Get into the game. C'est le moment de suivre notre journal des Jeux Olympiques de Tokyo avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Ce jeudi est une journée sans pour les athlètes africains. Le Kenya, seul représentant en liste dans le rugby à 7, dames, a doublement perdu face au comité olympique russe 35-12 et face à la Nouvelle-Zélande 29-7. Les Kenyans affronteront la Grande-Bretagne demain, elle qui reste dernière de leur groupe A. Les véritables espoirs de médailles africaines commencent demain avec la finale directe de l'épreuve du 10 000 mètres, l'une des disciplines favorites des Africains. Zoom sur les athlètes qui portent les espoirs africains justement dans cette épreuve avec Bagassi Koura.
Oui, chez les hommes, le grand favori de ces 10 000 mètres, c'est l'Ougandais Joshua Cheptegei, actuel détenteur du record du monde du 5 000 mètres et du 10 000 mètres, 26 minutes 11 secondes. Il est aussi le champion mondial en titre du 10 000 mètres, lui qui a enlevé l'or à Doha en 2019. Il a comme concurrent direct son compatriote Jacob Kiplimo, deuxième du championnat du monde junior en 2018 dans le 10 000 mètres, à l'occasion donc de s'imposer chez les seniors. Il a aussi été médaillé de bronze du 10 000 mètres lors des championnats du monde junior en 2016. Joshua devra aussi se méfier de l'Éthiopien Yomif Keshelcha. L'Éthiopien fait ses débuts au JO à Tokyo, mais il connaît les grands rendez-vous. Après l'argent arraché dans le 10 000 mètres lors des mondiaux d'athlétisme 2019 à Doha, justement derrière Joshua, le Kenyan Geoffrey Kamworor n'est pas en reste. Il voudra bouleverser la hiérarchie dans l'épreuve, lui qui est un peu monté en puissance dans le 10 000 mètres, se classant 11e au JO de Rio en 2016. Et sixième lors des championnats du monde en 2017 à Londres. Chez les dames, l'Afrique a les yeux rivés sur la détentrice du record du monde du 10 000 mètres, la Kenyane Letezembet Gide, avec ses 29 minutes 1 seconde l'année dernière. Elle s'est classée deuxième lors des mondiaux en 2019. La Burundaise Francine Nyonzaba, qualifiée sur 5 000 mètres dames et 10 000 mètres, a aussi des choses à montrer. Elle qui a été écartée de 800 mètres, son épreuve de prédilection à cause de son taux élevé de testostérone.
Merci Bagassi. Vous le savez, depuis les JO de Rio en 2016, les athlètes réfugiés concourent sous la bannière de l'équipe des réfugiés admise par le Comité international olympique. Pour ces JO de Tokyo, cette équipe regroupe 29 athlètes et parmi eux, l'haltérophile camerounais Cyril Tchatchedeux, réfugié à Londres en Angleterre, avant son départ pour Tokyo où il va concourir dans la catégorie des 96 kg le 31 juillet. Cyril explique comment le sport a changé sa vie. Nani Talani raconte.
Cyril Tchatchedeux se prépare à entrer dans l'histoire aux Jeux Olympiques de Tokyo, 7 ans après s'être retrouvé sans abri et sans argent au Royaume-Uni. En juin, l'haltérophile camerounais a été officiellement sélectionné dans l'équipe des réfugiés du Comité international olympique, faisant de lui le premier athlète olympique réfugié basé au Royaume-Uni. Cyril Tchatchedeux, haltérophile et membre de l'équipe des réfugiés.
J'ai l'impression que cela m'a un peu ramené à la vie parce que ça fait 7 ans que je n'ai pas participé à une compétition internationale.
L'athlète né à Yaoundé a représenté le Cameroun aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow avant d'apprendre qu'il n'était pas prudent pour lui de rentrer chez lui pour des raisons qu'il préfère ne pas révéler. Il a fui la base de l'équipe et s'est retrouvé sans abri pendant 2 mois à Brighton, une ville du sud de l'Angleterre. Tchatchedeux a trouvé du réconfort dans le sport et a pris d'assaut l'haltérophilie britannique, remportant 5 titres anglais, 3 titres britanniques et 5 records nationaux. Il a désormais hâte de faire valoir son talent à Tokyo au nom de tous les réfugiés du monde, dit-il. Une responsabilité que supportent pour le moment les épaules de Cyril Tchatchedeux qui entre en compétition le 31 juillet dans la catégorie des 96 kilos.
Merci Nalit. C'est ici que se referme cette fenêtre spéciale consacrée aux Jeux Olympiques.
Merci Yakuba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manuel Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, la coordination des actions citoyennes dénommée Wakit Tama, une coalition politico-civile, a appelé ses partisans à descendre dans les rues ce matin à N'Djamena, une manifestation pour exiger la révision de la charte de transition et l'organisation d'une conférence nationale souveraine inclusive. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Pour une des rares fois au Tchad, les autorités ont autorisé la marche de l'opposition. L'itinéraire a été changé à la dernière minute, mais c'est un pas de gagné, estiment les organisateurs. Sur une distance d'environ 4 km, les marcheurs ont marqué plusieurs arrêts scandant les slogans antisémites et chantant l'hymne national. Composé de militants de la société civile, de la plateforme des diplômés sans emploi, des victimes de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré et des partis politiques, le cortège avait à sa tête quatre porte-paroles de Wakit Tama, au rang desquels Maître Max Walgar, par ailleurs président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Il résume son message en paraphrasant le musicien Alphand Blondie en ces termes.
Allez dire au CMT qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris.
Sur les banderoles et pancartes, on peut lire entre autres non à la transmission du pouvoir du père au fils, non à la monarchie, oui au retour à l'ordre constitutionnel, le peuple vaincra, l'emploi c'est la vie. Docteur Sifa Kiyombatina Béni, l'un des porte-parole, exige la justice pour une vingtaine de manifestants tués depuis le début de cette révolution et également pour les victimes de Hissène Habré qui ont gagné les procès de N'Djamena et de Dakar.
Tous ces enfants ont été tués, il y a l'homme qui vous parle, il n'y a aucune indemnisation, les familles sont abandonnées à elles-mêmes, comme nous voyons devant nous des mamans qui ont gagné deux procès contre Hissène Habré et qui jusqu'aujourd'hui encore sont en train de mourir les unes après les autres sans que ceux qui sont à la tête de l'État, qui sont censés exécuter les décisions de justice, ne fissent même pas un mot. Il faut rendre justice à ce pays et c'est pour ça que nous marchons.
La coordination des actions citoyennes entend maintenir la pression pour amener les autorités de transition à entendre raison.
Nous allons marcher pour dire au CMT, il n'a pas de réformes à faire. On lui demande en 18 mois d'organiser une conférence nationale souveraine, inclusive, et en même temps préparer les institutions qui vont se charger des élections futures. On ne leur demande pas autre chose.
Barka Michel, l'un des porte-parole de Wakit Tama et président de l'Union des syndicats du Tchad. Au micro de VOA Afrique, quelques marcheurs expriment leur colère et indignation.
Nous voulons une république avec des institutions fortes, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous n'avons pas besoin de militaires. La place d'un militaire, c'est dans les casernes.
Vous avez vu les retraités, des gens qui ont contribué, ils viennent pour retirer ce qu'ils ont cotisé, on leur tire dessus. On forme les jeunes, au lieu de les intégrer, on les laisse dans la rue. Il y a des gens qui sont sur le banc, mais ils ont leur nom à la fonction publique. Non, 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 ça on n'acceptera jamais.
Les drapeaux français ont été brûlés par les manifestants pour dire non à l'ingérence des autorités françaises dans la gestion de la transition au Tchad. André Kodumadjingar, N'Djamena, en prouvé ou Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Début de compétition difficile pour les athlètes camerounais aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les quatre premiers entrés en lice ont été éliminés. Il s'agit de deux boxeurs, d'une pongiste et d'une judokate dans la catégorie des 70 kilos. À présent, les espoirs d'une médaille sont portés sur notre judokate Vanessa Atangana qui débute la compétition ce vendredi. Pour autant, les JO de cette année ne sont pas très suivis au Cameroun, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap.
Jeux olympiques de Tokyo 2020.
Sur les ondes de la chaîne de radio privée Royal FM, les auditeurs de la capitale peuvent suivre les nouvelles de la participation du Cameroun aux Jeux olympiques.
Il se dit que les Jeux se suivent et se ressemblent pour les athlètes camerounais.
Eric Christian Kwam, présentateur du programme Royal Sport.
On a créé une rubrique pas spéciale pour les journaux des sports du matin, les journaux de la rédaction centrale 12h, 18h. Mettons d'abord en place les faits avec les programmes des athlètes camerounais. Nous donnons l'information. informations sur leur préparation, leurs jours, leurs heures de compétition et de combat, et nous rendons compte des autres médailles africaines ou alors des médailles européennes qui ne nous intéressent pas trop, mais qui sont marquantes, qui sont des faits marquants dans ces événements.
Cette année, le Cameroun aligne 12 athlètes dans cette discipline. Le judo, la boxe, la natation, l'haltérophilie, l'athlétisme, la lutte et le tennis de table. Des athlètes presque méconnus du public dans les rues de Yaoundé.
J'ai pu voir défiler, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais à part ça, aucune info.
Vous connaissez au moins un nom?
Aucun.
Et déjà parce que je n'ai pas assez de temps dedans et je ne sais pas dans quelle discipline le Cameroun est représenté.
Je me suis intéressé à ça, mais je n'arrive pas à voir ça, c'est là. Je ne dis pas là que les compétiteurs qui sont allés du Cameroun, connus du Cameroun, il y a quelques-uns que je maîtrise un peu, mais la plupart, je ne le maîtrisais pas. Il y a la boxe, le judo. Bon, c'est les deux que je maîtrise un peu. Les autres, là-bas, je ne maîtrise pas un peu. Je ne sais pas à quel niveau ils vont approfondir leur performance, où ils vont arriver.
Et pourtant, le 1er janvier dernier, au siège du Comité olympique national et sportif du Cameroun, le Premier ministre a présidé une cérémonie de remise de l'étendard au porte-drapeau du Cameroun lors des Jeux olympiques de Tokyo. Mais pour le journaliste sportif Eric Kwam, cela n'a pas suffi.
Il n'y a pas eu un tapage médiatique sur leur départ, il n'y a pas eu un tapage médiatique sur cette équipe. On ne les a pas présentés, on ne les a pas vantés parce que beaucoup de journalistes n'ont pas pu, n'est-ce pas, avoir accès, n'est-ce pas, à la cérémonie parce qu'étant bloqués et après l'événement. Ils n'ont pas poursuivi avec le plan de médias. Ils n'ont que la CR TV. Et la CR TV, malheureusement, ne montre pas des directs. C'est la raison pour laquelle vous voyez les Camerounais ne sont pas intéressés. Mais ils entendent seulement parler qu'on a la championne, quatre fois championne d'Afrique, par exemple, comme Vanessa Tangana.
Déjà, le Comité olympique du Cameroun a commencé à issuer de vives critiques après l'élimination de deux des trois boxeurs du Cameroun à Tokyo. Le président de la Fédération camerounaise de boxe, Bertrand Magloire Mendouga, l'accuse d'avoir envoyé le boxeur camerounais à l'abattoir, sans un jour de stage interne, mais avec 18 jours d'acclimatation stupide au Japon, synonyme d'échec programmé et volontaire, fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, centaines d'entreprises utilisent des coquilles de noix de coco et de palme pour fabriquer des briquettes de charbon de bois dans le but de ralentir la déforestation en cours. Le Nigeria a interdit les exportations de charbon de bois après qu'un rapport de la Banque mondiale a montré que le pays avait perdu près de la moitié de sa couverture forestière en seulement une décennie. Reportage à Koudjé au Nigeria de Timothy Obiezo, récit Claire Morin-Gibourg.
Les coquilles de noix de coco sont triées avant d'être jetées dans une marmite brûlante. Rien ne se perd dans cette usine de transformation de noix de coco située dans la banlieue d'Abuja. Le propriétaire Emeka Ugweje raconte que tout a commencé il y a 10 ans.
Nous avons commencé une introspection et l'on s'est dit, laissons nos déchets devenir l'énergie nécessaire pour faire du feu et nous voilà.
Le résultat est riche en carbone, un préalable à la transformation en carburant. Il est refroidi, broyé et moulé manuellement en briquettes.
Nous voulons introduire plusieurs types de machines, une pondeuse de briques, une machine de coupe et un système de séchage qui donnera à ces briques une forme plus solide.
L'entreprise Dugweje est l'une des nombreuses au Nigeria à utiliser des briquettes de noix de coco comme combustible au lieu du charbon de bois. Les experts disent que l'énorme marché du charbon de bois du Nigeria a des répercussions environnementales majeures. Le pays a perdu près de la moitié de son couvert forestier entre 2007 et 2017 à cause du commerce du charbon de bois, selon un rapport de la Banque mondiale. Le rapport prédisait que les forêts du Nigeria pourraient disparaître totalement d'ici 2047. L'écologiste David Michael Terungwa qui a fondé l'Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire et la préservation des écosystèmes, affirme que le non-respect de l'interdiction d'exportation du charbon du Nigeria est à l'origine de la déforestation continue.
There is a lack of political will to end this practice in Nigeria.
Il y a un manque de volonté politique pour mettre fin à cette pratique au Nigeria. Dans le rapport de la Banque mondiale de 2017, c'est dans notre code civil, la loi Nesrea de 2014, qui interdit la production et l'exportation du charbon de bois au Nigeria. Mais je pense que le problème est la conformité et la surveillance de cette conformité, ainsi que l'application par l'agence de réglementation.
Les autorités nigériennes ont encouragé la plantation d'arbres pour remplacer les forêts décimées. Mais les experts disent qu'en l'absence d'une réglementation adéquate, les Nigérians doivent faire plus d'efforts pour utiliser d'autres alternatives au charbon de bois dérivé des arbres comme combustible.
L'administration Biden a lancé une initiative dite « Construire ensemble une Afrique prospère » en demandant 80 millions de dollars au Congrès pour développer le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Certains experts affirmaient que cela va aider à renforcer les liens entre les États-Unis et le continent. Mohamed Youssouf fait le point depuis Nairobi, le récit avec Marius Murunga.
S'exprimant lors d'un point de presse en ligne mercredi, la directrice Afrique du Conseil de sécurité nationale, Dana Banks, a déclaré que les États-Unis sont prêts à faire des affaires avec le continent.
La campagne est un effort ciblé pour élever et dynamiser l'engagement des États-Unis pour le commerce et les investissements dans les pays du continent africain sous l'administration Biden-Harris. Notre objectif est d'augmenter considérablement le commerce et les investissements dans les deux sens entre les États-Unis et l'Afrique en connectant les entreprises et les investisseurs américains et africains à des opportunités d'affaires tangibles.
L'initiative dite « Une Afrique prospère » vise à accroître le commerce et les investissements entre les États-Unis et le continent. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain s'engage en Afrique pour des questions commerciales. En 2000, le président Bill Clinton a signé l'African Growth and Opportunity Act, ou AGOA, un accord qui permet aux pays africains d'exporter sans droit de douane quelques 6500 produits vers les États-Unis. L'AGOA existe toujours et est prolongée jusqu'en 2025. D'après le Brookings Institute, l'Afrique du Sud a obtenu 917 millions de dollars en 2019 en exportant des produits automobiles et agricoles vers les États-Unis. Une autre étude réalisée par l'Université d'Afrique du Sud en 2017 a révélé que les États-Unis ont importé 10% de leur vin de ce pays pour 59 millions de dollars. Actuellement, le gouvernement américain négocie un accord de libre-échange bilatéral avec le Kenya.
L'intégration croissante de l'Afrique dans les marchés mondiaux, le boom démographique et la culture florissante de l'entrepreneuriat nous offrent une opportunité remarquable de renforcer ces liens économiques et de promouvoir de nouvelles opportunités pour les entreprises américaines et africaines afin de stimuler la croissance économique et la création d'emplois et une plus grande participation des États-Unis dans l'avenir de l'Afrique.
Garrison Akiara, professeur d'économie internationale de l'Université de Nairobi, estime que cette initiative va contribuer à renforcer les relations entre les États-Unis et l'Afrique.
Les US want to tap that both for economic reasons and the political and international relations reasons.
Les États-Unis veulent exploiter cela à la fois pour des raisons économiques, politiques et des relations internationales, car il est connu que les relations commerciales aident également à nouer des liens politiques et diplomatiques dans le monde entier. C'est la clé à partir de maintenant. Les États-Unis vont savoir davantage plus sur les produits africains, la culture africaine, avec de nombreux immigrés venus d'Afrique qui travaillent aux États-Unis.
Cependant, certaines critiques affirment que ce plan de commerce et d'investissement pourrait aussi saper la zone des libre-échanges continentales africaines qui a été établie en 2019. Cet accord fait la promotion de la libre circulation de biens et des personnes à travers le continent africain.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Georges Léonard Sagnot, Josène Morissin et Lionel Nounanila Gahima. À la présentation, c'était Eric Manirakiza. À la prochaine.